Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Corinne Stanciou-Lacroix pour son très beau polar au titre énigmatique « La mansuétude des orques est immense » édité chez Rouergue Noir. Bonjour Corinne Stanciou-Lacroix.
Bonjour Florent.
Avant d'éclairer nos auditrices et auditeurs sur l'intrigue de votre roman, je donne très vite la définition de mansuétude d'après Robert et Larousse. Disposition d'esprit qui incline à une bonté indulgente. Première question, faites-vous preuve de mansuétude autant avec les êtres humains qu'avec les réputés non humains, Madame Stanciou?
Ah, c'est une question, question à laquelle je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que je vais dire? Non, pas toujours, j'essaye. Mais pas toujours, parce que j'imagine que j'agis sous le coup de l'émotion, souvent. Je suis quelqu'un d'assez impulsif et de sensible, donc je ne suis pas persuadée de faire preuve toujours de la mansuétude que je devrais peut-être distiller, j'avoue. Je suis peut-être moins apte à la mansuétude que les orques, justement.
J'ai posé cette question, ce n'est pas dans mon habitude de poser ce genre de questions en début d'entretien, mais c'est parce que bon, vous avez un rapport aux animaux, à la violence envers les animaux qui est très sensible dans votre roman.
C'est vrai. Je dirais que si je devais faire preuve de mansuétude, j'en ferais beaucoup plus par rapport aux animaux que par rapport aux humains.
Alors, Corinne Stanciou, vous êtes française, chirurgien-dentiste, oui. C'est une bio très courte, hein, et vous avez travaillé, oui. Ce qui a éveillé ma curiosité, comme experte à la cour d'appel de Grenoble. C'est ça. Dites-moi plus sur ce travail. Vous avez une anecdote croustillante?
Alors, des anecdotes croustillantes, pas vraiment, parce que c'est quand même un travail assez sérieux. Ce qui est toujours intéressant, je trouve, c'est de se réinventer dans sa profession. Et ça m'a permis, ce côté expert, de sortir un petit peu de mon quotidien, de sortir un peu de mon bloc opératoire et de parler un petit peu plus, en l'occurrence, à des confrères, parce qu'en général, quand on est expert, on rencontre des gens, des patients qui sont pas très contents de leurs soins ou qui ont un problème de litige avec leur praticien. Et donc, on est amené à discuter et on est amené à explorer un petit peu, non seulement le domaine dentaire, mais aussi le domaine, je vais dire, humain. Alors, vous révélez des anecdotes croustillantes, non, j'ai rien de très drôle à raconter. Et puis, ce serait pas très sympa quand même de moquer ni de patients malheureux, parce qu'en général, quand je les reçois dans ce contexte-là, ils sont souvent très malheureux, parce que vous pensez bien qu'on fait pas ce genre de démarche et c'est pour une broutille. Hein. Donc, c'est des gens qui sont souvent quand même dans un état de détresse important. Ou alors c'est à la suite d'un accident, donc vous imaginez, on a un petit peu du mal à rire de ces situations-là, même si on doit rire de tout. Hein. Et j'essayais, du moins durant mes expertises, de dédramatiser au maximum. Et si je pouvais en plus les faire rire, parce que bon, effectivement, faire rire, et on peut rire de tout, et c'est encore ce qui désarme le mieux. Mais là, tout de suite, Florent, j'ai pas d'anecdote, je suis désolée.
C'est pas grave. Alors j'ai signalé que vous étiez française, mais aujourd'hui, c'est important évidemment, vous vivez en Angleterre. Dans le Dartmoor.
Dartmoor, en fait, j'ai habité Dartmoor pendant 4 ans et maintenant j'ai glissé un petit peu dans le Southam. Mais mon bouquin, il parle des paysages de Dartmoor. Hein, c'est vraiment cette lande que je décris. Nous avions acheté avec mon compagnon une ancienne ferme qu'on a retapée et qui était dans un endroit absolument extraordinaire. Donc pour l'anecdote, puisque je vous sens friand d'anecdotes.
Oui.
Ce qui était assez drôle, c'est qu'on s'est baladé à Dartmoor. Bon, je suis tombée amoureuse et puis je suis une exaltée. Hein, vous allez vite vous en rendre compte. Donc tout de suite, voilà, je me suis dit, oh là là, vraiment, ça me plaît cet endroit. Parce que quand j'ai rencontré mon compagnon, il était londonien. Hors de question, moi je suis parisienne d'origine, que j'aille m'installer à Londres parce que j'avais quitté Paris. Ce n'était pas pour retrouver Londres. Et donc pour m'attirer, il a loué une très belle ferme à Dartmoor. Et à partir de là, nous avons décidé d'acheter. Donc, on s'est mis en quête de trouver une maison. Et donc, toutes les maisons qu'on visitait, c'était des petites maisons avec des toutes petites fenêtres, style cottage, des plafonds bas, très sombres, humides. Alors, bon, voilà, je n'avais pas le coup de foudre. Et puis, tout d'un coup, on a visité une maison qui était haute de plafond, avec des grandes fenêtres, une vue 360 sur les torts environnants. C'était extraordinaire, magnifique. Coup de foudre immédiat. Hop, on se lance, on achète. Et en réalité, entre nous, ben, on a découvert que si les maisons étaient basses et protégées, il y avait une raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de vent à Dartmoor. Voilà, c'était juste pour vous faire sourire.
Ok. Alors effectivement, le roman, votre roman, La Mansuétude des Orques, est immense. Se situe dans le Dartmoor, où vit l'une des héroïnes de votre roman, qui s'appelle Colline, oui, qui s'est installée dans cette lande aride, mais boisée aussi, si je ne me trompe pas.
Oui.
Elle s'est installée là avec Pierce, son nouvel amour, et Paul, son fils. Et leurs voisins les plus proches, c'est un couple d'éleveurs de Welsh Black, donc la race de vaches locales.
Magnifique vache
typique,
locale.
Voilà, oui, typique de la région, que vous décrivez très bien, avec beaucoup de tendresse. Les voisins, oui, c'est Joy et Andy. Et nous voilà lancés littéralement dans cette histoire au parfum de mousse, de lichen, de lande, où des génisses vont être atrocement mutilées. Oui. Vous avez choisi de faire tuer des animaux avant peut-être d'autres crimes dans votre roman. Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce que je pense que c'est une façon de prendre de la distance. C'est une façon de pouvoir décrire des atrocités sans impliquer, sans choquer de trop, parce que c'est peut-être un tort. Mais en tant qu'humain, on est peut-être moins touché. J'ai imaginé que le lecteur serait peut-être moins, comment dirais-je, frappé de plein fouet si on exerçait, si on pouvait réaliser des atrocités sur des animaux plutôt que sur des êtres humains, en tout cas dans un premier temps. Et surtout, tant qu'à choisir un animal, autant choisir un animal qui représente, qui soit un symbole de pureté, qui ne soit pas apte à se défendre, si vous voulez. Il n'y a pas plus innocent qu'une pauvre génisse qui est dans son étable, qui est entre quatre murs, qui n'a pas de moyen de se sauver, en fait, qui ne peut pas échapper à son destin et échapper à la cruauté de ses agresseurs. Donc c'est probablement un moyen pour d'emblée créer une atmosphère assez sordide, ouais, tout en prenant de la distance, mais en impliquant quand même des animaux qui vont toucher le lecteur. Parce que le lecteur, il ne va pas être, comment dirais-je, il ne va pas ne pas se sentir impliqué dans ce crime, puisque finalement, c'est l'innocence qu'on tue. Donc, c'est un petit peu paradoxal, mais voilà.
Oui,
je l'exprime très bien.
C'est vrai que c'est à la fois insupportable et supportable. Enfin, j'aurais du mal à exprimer, mais...
C'est
votre livre, votre roman, bon, c'est à la fois sur les vaches, les chevaux, mais aussi sur les Anglais, sur leur campagne et leur art de vivre. Dartmoor, c'est aussi le pays du chien des Baskerville. Donc c'est peut-être une région criminogène, je ne sais pas, qui inspire comme ça ces choses, ces ambiances un peu étranges. Je pense que c'est un peu ça, mais j'aime beaucoup votre style, parce qu'il oscille doucement entre la violence et la nature, entre le naturel des relations humaines que vous décrivez dans de très bons dialogues, je trouve, et la violence du travail avec la nature ou dans la nature. Je trouve que ça oscille sans arrêt entre ces deux, entre violence et nature. J'ai envie de lire un court passage, si vous me le permettez. Mais il roule comme un malade, celui-là. Quel abruti ! Abruti ! Lui crie-t-elle encore avec rage alors qu'il a déjà disparu dans le virage. Elle n'a jamais vu cette fourgonnette avant aujourd'hui, sûrement pas un gars du coin, et le vent vif qui lui cingle le visage l'empêche de conjecturer. Il lui tarde d'arriver à son étable, un simple hangar de tôle en réalité, qui abrite quelques-unes de ses bêtes qu'elle garde à l'écart du troupeau. Des veaux un peu faiblards et quelques vaches sur le point de veiller qu'elle doit surveiller. Au bout de la ligne des haies, un petit coin de tôle brille au loin, puis, au fur et à mesure qu'elle avance, c'est le toit tout entier qui se dessine. Ne lui reste bientôt plus que quelques mètres à parcourir. Elle perçoit les effluves de purin mêlés à ceux légèrement âcres de la paille. Soudainement, l'odeur est forte et s'engouffre dans ses narines. Elle est arrivée, elle coupe le moteur et descend de son quad. Je je vais m'arrêter là. Après, on arrive à une scène assez trash, en fait. Qui montre bien, à mon avis, la manière dont vous, justement, vous gardez cet équilibre. Ça m'a parfois fait penser à un film de Terrence Malick qui s'appelle The Seed Red Line, qui se passe en temps de guerre et où il y a des passages entre la nature environnante, calme, complètement bucolique, et on bascule d'un coup dans l'horreur de la guerre. D'autant plus que je trouve que, comme Terrence Malick, vous vous attachez à donner de la vie à tous les protagonistes du roman, à commencer par l'enquêtrice, puisque c'est un polar, qui s'appelle Freya Di Maio. Alors, comment vous est venue l'idée de ce nom ?
Je l'ai emprunté, Freya. Alors, Di Maio, je l'ai inventé, je trouve ça assez marrant comme combinaison. Mais Freya, en fait, c'est une petite étudiante qui était c'est pas elle, mais je me suis inspirée de son caractère parce que mon fils était au collège, dans un collège anglais, il y avait une gamine qui s'appelait Freya, qui n'avait pas les traits de Freya, mon inspectrice, mais qui avait ce côté talentueux, ce côté où son intelligence était vraiment brillante, elle était très brillante, elle avait une intelligence très pointue et un regard très particulier. Et voilà, elle m'a frappée, cette gamine, elle s'intéressait à tout. Et elle m'a raconté, ce qui m'a donné l'idée de ces graffitis et de cette scène que je décris dans l'église, en fait, son papa était passionné par les vestiges médiévaux et ils n'avaient pas la télévision, ils ont passé leur jeunesse, elle et son frère, à restaurer un village médiéval.
D'accord.
C'est quand même des caractères qu'on croise dans la vie et qui nous laissent une trace. Et donc, elle m'a inspiré le personnage de Freya Di Maio. Voilà.
Alors, c'est vrai que Freya est passionnée de graffiti, pour faire simple. Donc, c'est elle qui va mener l'enquête. J'en profite aussi, d'ailleurs, avant d'oublier, comment vous est venue l'idée aussi du médecin légiste aux accents multiples ?
Alors ça, je ne peux pas vous dire, Florent, tout d'un coup, j'ai eu envie de le colorer un petit peu, ce personnage qui pouvait être un petit peu, vous savez, vous imaginez ces atmosphères de laboratoire, tristounette, blafarde, on imagine une lumière blafarde, on imagine ce personnage qui est vraiment, qui baigne dans la mort en fait, dans le silence, et j'ai eu envie de le colorer un petit peu. Curieusement, je me suis dit, ce serait marrant qu'il ait cette maladie, sans savoir qu'elle existait réellement. Ce syndrome de l'accent étranger. Et j'ai regardé bêtement sur Internet et je me suis aperçue, j'ai eu de la chance, ça existait. Donc voilà, ça c'est du pain béni pour une romancière.
Franchement, c'est hilarant cette idée. C'est pas drôle comme maladie, mais ça tombe... j'ai trouvé ça très british comme humour en fait.
Oui, c'est très décalé. Ouais. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais il y a de ça dans le roman, j'espère.
Ouais.
J'espère que j'ai réussi à reproduire ce décalage. Parce que c'est ce qu'on vit un petit peu au quotidien avec les Anglais. Ils ont cette capacité de prendre de la distance et justement de flirter avec, entre le drame et le rire constamment et de rester dans une forme d'élégance, je dirais. Cette distance leur permet de garder du sang-froid et de... Ce qui suscite encore plus de rire, bien souvent. Mais voilà, c'est très particulier chez les Anglais et j'ai essayé de reproduire ça, oui. Au travers de ce caractère et au travers aussi d'autres caractères.
Après, les relations entre les personnages et eux-mêmes sont peut-être un petit peu décalées, mais souvent très rudes. C'est pas facile comme atmosphère, malgré les digressions sur les mammifères marins, etc. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est la relation qui se construit entre Colleen, donc, on va dire l'héroïne de votre roman, toutefois plus ou moins, et Freya. Colleen est l'inspectrice. Comment vous avez voulu construire cette relation ?
En fait, j'avais envie que ces personnages... se rejoignent sur certains points communs qu'elles ont, sur sans doute une sensibilité ou voire une hypersensibilité qu'elles ont en commun, et que l'une et l'autre s'admirent réciproquement. En l'occurrence, je pense que Colleen admire d'emblée cette jeune femme qui lui fait forte impression, qui est passionnée de graffiti, par son savoir, par son enthousiasme, et puis elle découvrira au fil de l'histoire son extraordinaire intelligence. Donc ça, c'est pour Colleen admirant Freya. En fait, je dirais que ce qui les lie aussi, c'est cette capacité d'observation. C'est-à-dire qu'elles sont toutes dans L'une, c'est son métier. L'autre, c'est parce qu'elle a, elle a changé de pays. Donc, elle se trouve un peu sur un terrain qu'elle ne connaît pas. Et donc, quand vous êtes, quand vous vivez l'exil, que vous vous exilez, que vous vivez dans un pays nouveau, vous avez tendance à observer beaucoup, plus qu'à parler, qu'à vous exprimer. Vous observez beaucoup. Et donc, ça développe un sens de l'observation. Et donc, Freya, en l'occurrence, au contraire, pardon, donc là, je parlais de Colline, pardon, ouais. Je n'ai pas été claire, mais Colline développe ce sens de l'observation parce que, justement, elle arrive en Angleterre, elle qui est française, elle observe, elle tombe aussi dans un milieu rural. Il faut savoir qu'en Angleterre, les relations sociales sont très codifiées. Donc, les lecteurs le découvriront au fil du livre, mais il y a pas mal de traditions et de choses un petit peu étonnantes. Donc, elle est dans ce mode observation. Et Freya est continuellement dans ce mode observation puisqu'elle est inspectrice. Donc, son job, finalement, c'est d'observer, de noter. Et donc, elles sont forcément attirées ou sensibles aux détails. Et pour vous révéler quelque chose sur ma personnalité, je suis absolument obsédée par les détails. Pour moi, dans la vie, il n'y a que ça qui compte. Parce que, selon moi, l'essentiel, tout le monde l'a déjà. Donc, je m'attache toujours aux détails. Donc, j'ai voulu, je parle sans doute, on parle toujours en tant qu'écrivain un petit peu de soi. Donc, c'est ce trait que j'ai voulu prêter à mes deux caractères.
Ce que je trouve intéressant, c'est que Colline ne devient pas l'adjoint ou le bras droit de Freya durant l'enquête, comme ça, d'emblée. Mais petit à petit, il y a une relation qui se crée, qui est assez intime, mais très légère. Enfin, la manière dont, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais disons que cette relation, elle prend de l'épaisseur à la fin du roman. Et qu'on est amené à ça, quoi. Je trouve ça super intéressant, la manière dont c'est traité. Là, ça fait sororité douce. Vous voyez ce que...
C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est le terme que, voilà. J'aime cette idée de sororité. Je voulais aussi en parler, la décrire. Et c'est exactement ça. C'est une relation de sororité. Mais qui n'est pas, elle ne se force pas. Elle vient naturellement. Elle vient avec le temps. Et avec l'admiration que Freya suscite à Colline, donc elle a envie de l'aider, Colline. Elle se trouve petit à petit impliquée aussi. Donc tout doucement, c'est très vrai ce que vous dites, elle a tendance à se rapprocher de Freya et elle va, sans toujours le vouloir d'ailleurs, mais l'aider.
Ouais, c'est un roman où il y a plusieurs portes. On peut rentrer dans le roman par le côté relation de la campagne anglaise, voilà, comme vous dites, le mode de vie, les interactions sociales. On peut rentrer dans le roman à travers la violence faite aux animaux. On peut rentrer dans le roman à travers la relation qui se crée entre Colline et Freya. C'est une enquête qui vraiment sert de fil rouge, mais qui permet, enfin, au lecteur, à mon avis, de relire le livre avec plusieurs points de vue presque, même si on est souvent dans le point de vue de Colline. Ouais. Mais voilà.
Ouais, je pense que c'est un roman sur l'enfermement. Et justement, Colline, elle va sortir de son enfermement et elle va. C'est des mondes qui vont se rapprocher finalement.
Oui, ça pourrait être.
Celui de Freya et celui de Colline.
Ça pourrait être un monde assez effectivement claustrophobe, quasi. Mais,
oui.
Mais bon, vous donnez suffisamment de respiration pour qu'on puisse reprendre notre souffle. J'en reviens à ce que je pense être le cœur du roman, c'est-à-dire la maltraitance faite aux animaux de ferme ou aux animaux domestiques. Je pense aux chevaux, aux vaches, aux orques. Pour vous, cette violence, elle est toujours importée de l'extérieur ou est-ce qu'elle est intérieure, c'est-à-dire constitutive de la campagne, du travail à la campagne, du travail dans des centres pour animaux, en l'occurrence? Est-ce que c'est extérieur ou intérieur? Est-ce que c'est forcément...
Je pense que ce qu'il y a de plus difficile, insoutenable, je dirais, c'est surtout que cette violence, elle est rendue naturelle, c'est-à-dire qu'elle passe complètement inaperçue. Elle est complètement ancrée dans les mœurs de chacun. Par exemple, en allant vivre à la campagne, je m'étais dit que j'allais m'approcher de gens qui étaient forcément plus sensibles aux animaux et au bien-être animal, qui vivaient avec des animaux, donc qui allaient créer des liens. Mais je pensais trouver un plan d'égalité, ou en tout cas un peu plus d'égalité, un peu plus d'égard de la part de gens de la campagne vis-à-vis d'animaux qui finalement sont des compagnons de travail, des compagnons de vie. Mais en fait, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a une violence, qui est omniprésente et qui finalement ne semble pas molester qui que ce soit. C'est ce qui m'a le plus frappée et c'est ce qui me heurtait en fait. Je vous donne un exemple, celui des vaches, des mères qu'on sépare des veaux et des veaux qui vont crier non-stop toute la journée, toute la nuit. Et ça dure comme ça plusieurs jours parce qu'ils les séparent très vite de leur mère. Et personne ne les entend. Et je trouve ça incroyable.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on est complètement, on est sourd à leurs cris, à leurs plaintes, on est sourd à leurs douleurs. Et ça m'interroge, j'avoue que ça m'a beaucoup choquée. Bon, c'est pas réservé à la campagne anglaise, on est bien d'accord.
Bien sûr. En Aveyron, voilà. on connaît ça.
Et vous discutez avec des gens absolument charmants qui vont vous donner, qui vont vous raconter qu'ils ont des petits trucs pour se rendre la vie plus facile. D'ailleurs, ils trouvent ça, c'est complètement entré dans les mœurs et c'est des trucs qui se refilent de génération en génération. Donc là-dessus, il y a peu d'évolution. Mais c'est vraiment de la torture. C'est-à-dire, pourquoi ils entourent la queue des agneaux avec un fil électrique ou un élastique pour que finalement elle tombe de putréfaction. Enfin, elle ne soit plus irriguée. Donc ouais. Le membre finit par être coupé de la circulation sanguine. Donc vous imaginez quand même, ils font la même chose avec les testicules, parce que ça coûte quand même moins cher d'aller chez le véto. Et ils vous racontent ça avec un naturel déconcertant. Ça ne leur pose aucun problème.
Mais ils peuvent être extrêmement choqués par le massacre d'une génisse. C'est ce que montre aussi votre livre. C'est un bouleversement, en fait. De s'attaquer aux animaux hors de la norme, j'allais dire.
C'est ça. Et à la fois, si vous poussez le curseur, c'est-à-dire que l'avantage du polar, c'est quand même de pousser le curseur du réel. Et en poussant ce curseur du réel, on arrive à, j'espère, à décrier une situation, on arrive à montrer un petit peu du doigt des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Et donc, comme vous dites, tant que c'est leur petite violence ordinaire, ça va bien, mais si ce sont notamment des étrangers qui s'attaquent à leurs bêtes, alors là, c'est totalement différent. C'est une violence qu'ils prennent de plein fouet. Et là, évidemment, ça suscite une indignation et voilà, je suis d'accord. C'est une question de curseur et c'est une question aussi de point de vue. C'est ça, en fait, la vie. Tout dépend du point de vue où on se place et c'est un problème de perception aussi. Je pense qu'on réagit par rapport à son acquis, à son éducation, à qui l'on est, à sa sensibilité, son degré de sensibilité. Mais c'est toujours relatif à l'éducation. Parce qu'on peut aussi chercher à les défendre. C'est comme ils nous racontent leur process, leur procédure dans le domaine agricole. C'est des choses qu'ils ont apprises, des choses qu'ils ont acquises et qui sont rentrées dans le domaine du normal. Donc la question qui se pose dans ce livre, c'est qu'est-ce qui est normal ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un petit peu notre rapport à l'autre, notre rapport aux animaux ? Voilà, c'est une question qu'il pose.
Là, je pense que tout le monde doit se demander, mais pourquoi les orques ? Parce que les orques dans le Dartmoor, il n'y en a pas tant que ça, on va dire. Il y a des phoques.
Il n'y en a pas tant que ça, ouais.
Sur la côte, mais alors, pourquoi les orques ? Oui, dites-nous tout.
Alors, je ne veux pas révéler quoi que ce soit, c'est quand même un polar.
Oui.
Mais cette idée d'orque, elle est venue d'un poster que j'avais gamine. J'avais ce poster, je l'ai toujours dans ma mémoire, je ne sais pas exactement où il traînait, mais en tout cas ce poster, il représentait un orque. C'était une photo d'orque qui sautait tout droit pour essayer de toucher un petit ballon rouge dans un bassin de Marineland. Et ce poster, je l'ai enterré dans ma mémoire et pourquoi il est ressorti au moment où j'ai voulu écrire ce polar ? Alors, je voulais que ce polar parle d'animaux. Je voulais qu'il décrit pas mal de choses. Je voulais qu'il parle du rapport de l'homme avec les animaux, de la prééminence de l'homme mortifère. Je voulais qu'il parle de tout ça. Et donc, les orques se sont imposés à moi comme figure d'animaux super, avec des super pouvoirs. Voilà, parce que s'il est des animaux fascinants, ce sont quand même ceux-là. Les orques sont dotés d'une intelligence extraordinaire, absolument fascinante. Ils ont des particularités anatomiques qui sont surtout en ce qui concerne le cerveau, extraordinaire. Donc, je me suis intéressée aux orques, d'une part parce qu'ils faisaient partie de, peut-être de mes souvenirs d'enfant, de mon inconscient, ils m'ont toujours fascinée. Et puis, à partir de là, quand j'ai commencé à m'intéresser et à me documenter sur les animaux, j'ai découvert beaucoup de choses sur leur structure cérébrale, sur la complexité de leur langage, sur leur mode de vie, sur leurs relations entre elles. Et finalement, ce qui les rapprochait beaucoup de l'homme. Pour parler de leur cerveau, par exemple, ils ont des caractéristiques qui font penser qu'ils pourraient être, alors je mets ça entre guillemets, hein, plus intelligents que l'homme, d'une certaine façon, en tout cas, avoir des aptitudes que l'homme n'a pas. Hein. Une capacité de traiter l'information, par exemple, qui est magnifiée par le fait qu'ils ont un cortex, on appelle ça un index de girification, mais un cortex qui est extrêmement replié sur lui-même. Donc, ils ont une grande densité de neurones. Et donc, ils ont cette capacité de réagir très vite et ils ont une capacité d'analyser une situation très, très vite. Voilà, ils ont aussi un cortex auditif qui est super développé. Un détail, une anecdote qui m'a fascinée et que je relate dans mon bouquin, c'est qu'en fait, ils ne respirent pas. Pour eux, respirer, ce n'est pas un réflexe. Ils doivent décider de respirer. Donc, quand ils dorment, et pour ne pas cesser de respirer et pour réussir à survivre, ils ont une faculté de dormir réveillé, c'est-à-dire qu'une moitié du cerveau dort pendant que l'autre veille. Et je trouve ça absolument fascinant. Voilà, pour moi, ce sont des animaux absolument fascinants. Et bien sûr, le fait qu'on ait tendance à les utiliser, il y a eu cette polémique aussi récente sur les orques.
Ouais.
Voilà, donc j'ai joint aussi, puisque j'ai été sensibilisée par ces orques du Maryland qui ont été... À la suite de la loi qui est tombée sur l'interdiction d'avoir des orques dans captivité, l'issue de ces pauvres orques qui n'est toujours pas décidée, j'ai l'impression, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Ouais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les dirigeants ont voté de l'interdiction de garder en captivité des orques, il n'en demeure pas moins qu'on ne sait pas quoi faire de ces géantes, parce que maintenant qu'on les a sorties de leur domaine et qu'on n'est pas à même de les réintroduire parce qu'elles mangent du poisson mort. Or, un orque au naturel, dans la nature, il chasse. Voilà, et on ne sait pas leur apprendre à chasser ces pauvres orques. Donc, elles sont pas, on ne peut pas les remettre, les relâcher en milieu naturel. On les a sur les bras. Et bien sûr, maintenant, on réalise que... on ne sait pas trop quoi en faire. Surtout que tant qu'elles rapportent de l'argent, on peut mettre des moyens illimités, mais à partir du moment où elles ne rapportent plus, ce n'est plus la même problématique.
Je crois qu'elles devaient partir en Espagne, mais je crois que ça n'a pas beaucoup avancé, en fait. Mais ce que vous faites très bien, c'est faire le pont entre une enquête qui se passe dans le Dartmoor, une enquête très british, et la vie des orques. Ça, j'avoue que c'est pas évident. Comme ça, j'invite les lecteurs à découvrir ça, bien, c'est pas mal.
Mais ça fait partie de la part du mystère aussi. Je pense que le polar doit receler sa part de mystère.
Et je vais dire un dernier petit mot à toutes les auditrices et tous les auditeurs de PVC de maintenant propager la bonne nouvelle, puisque le premier roman de Corinne Stanciou-Lacroix, La mansuétude des orques est immense, est en librairie, donc achetez-le. Laissez-vous happer par ce polar qui vous fera voyager. À mon avis, c'est la force de ce roman, l'originalité qui apporte une bouffée de fraîcheur dans le polar. C'est vif, c'est agréable, c'est tendu, c'est parfait pour votre été. Voilà. Merci encore Corinne Stanciou. Et à bientôt, j'espère, pour votre futur roman. Il y a quelque chose dans les tuyaux, comme on dit.
Oui, je n'en dirai pas plus, mais oui.
Faut pas en dire plus, de toute façon.
Je m'attelle à la tâche.
On va guetter ça. Faites-nous signe.
Merci Florent, merci mille fois.
J'étais
absolument ravie de passer ce petit moment avec vous. J'ai dû bafouiller beaucoup, mais c'est une première, il faudra me pardonner.
Oui.
Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous. J'aime beaucoup votre émission.
C'est gentil.
J'ai écouté, j'avoue que je ne la connaissais pas, mais maintenant je peux vous dire que je vous écouterai régulièrement parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime cette ambiance, cette simplicité, cette proximité et cet amour vrai que vous avez pour les polars. Je trouve ça génial.
C'est super gentil. Moi, j'ai vachement aimé votre bouquin et puis tout le monde va le lire ici. Bravo et puis bonne fin de journée chez nos amis anglais.
Merci beaucoup, Florent.
À bientôt, je vous tiens au courant.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. On you because